Dans son article Nazism and the Working Class, 1933-1939, donc le nazisme et la classe ouvrière, Sergio Bologna ajoute un certain nombre de choses aux travaux de Guérin qui sont extrêmement intéressants. Bon, après avoir critiqué effectivement le révisionnisme hein, qui sévit dans certaines publications en Allemagne qui font de la classe ouvrière quasiment le principal bénéficiaire du nazisme, il essaye d'enrichir la théorisation et la compréhension du nazisme. Et en cela, il est extrêmement intéressant à lire en complément de Guérin. Tout d'abord, il va montrer comment est-ce que la classe ouvrière allemande, loin d'être uniquement allemande et composée de salariés libres, était en réalité aussi composée de travailleurs forcés. 80% hein, des travailleurs étaient des travailleurs forcés pendant les années de guerre du nazisme, et il y avait une bonne partie, notamment d'Italiens. Donc il revient notamment aussi sur les travaux hein, de Tim Mason, sur le fait que, en réalité, la classe ouvrière a résisté à l'aggravation de ses conditions de travail sous le nazisme, dès qu'il en a eu l'occasion, c'est-à-dire à partir du moment où il y a eu le retour du plein emploi, à peu près donc en 1936-1937. Il ajoute également un certain nombre de choses, notamment le fait que le Parti communiste était majoritairement composé en Allemagne de gens qui n'avaient pas d'emploi. Et ça, en fait, ça a des vraies conséquences. Parce que les ouvriers communistes, sans emploi, vont être dans une précarité matérielle qui rend leur résistance au nazisme, qui sont, comme Guérin l'a très très bien montré, hein, largement financés hein, par le grand capital, le moyen capital et le petit capital, et bien que voilà, les prolétaires communistes vont avoir extrêmement du mal à faire face à la montée du nazisme, parce que dans une précarité matérielle, parce que aussi dépendant des aides sociales qui leur sont reversées par les municipalités qui sont contrôlées principalement par les sociodémocrates. Et en fait, cette dépendance aux aides sociales va faire que les sociodémocrates qui considèrent jusqu'à la fin de 1932 les bolcheviques et la révolution communiste comme le principal obstacle et la principale menace sur la démocratie entre guillemets de la République de Weimar, eh bien vont en fait pouvoir faire du chantage aux aides sociales aux jeunes ouvriers communistes et vont ainsi les dissuader d'opérer une résistance extra-légale à l'avancée du nazisme. Daniel Guérin essaye d'expliquer aussi la division du SPD et du KPD par donc du Parti social-démocrate, le SPD, et du KPD, le Parti communiste, par des raisons qui tiennent principalement au fait que l'un défend la République de Weimar, alors que l'autre, globalement, veut l'abattre au profit d'un régime de type stalinien. Ce que Sergio Bologna montre, c'est qu'en plus de ça, il y a également une division à la base entre des ouvriers communistes sans travail, peu qualifiés, en général jeunes, et des ouvriers du SPD qui appartiennent plutôt à l'aristocratie ouvrière, qui ont un emploi, voire qui appartiennent carrément, disons, aux classes moyennes salariées, à la classe des employés. Et donc cette fracture, elle va être aggravée par le fait que, contrairement à ce qu'on a beaucoup dit, que finalement le Parti communiste avait beaucoup collaboré avec le nazisme, avait fait jeu commun avec le nazisme pour abattre la République de Weimar, en réalité, Sergio Bologna nuance un petit peu, et s'il dit qu'effectivement la politique stalinienne en Allemagne a eu des effets désastreux, donc une politique finalement de « il faut abattre la social-démocratie en priorité », la base du Parti communiste et certains de ses cadres ont considéré tout de même que le principal objectif, c'était la résistance au fascisme. Et donc il y a vraiment eu un combat de la part hein, d'une partie du Parti communiste allemand. Il y a eu un combat antifasciste, un combat de rue, qui a été perdu par manque de moyens, mais aussi par le fait que la police, qui était principalement sous contrôle du Parti social-démocrate, a été envoyé contre les militants du Parti communiste. Et notamment, le 1er mai 1929, il y a eu vraiment un écrasement, une répression féroce de la manifestation des militants communistes, hein, que bon, nous on porte pas forcément dans notre cœur dans cette émission, dans le sens où bon, ils appartiennent à un parti qui est stalinien, qui est très très éloigné de toute forme d'anticapitalisme émancipateur ou d'anti-autoritarisme. Enfin bon, le SPD a aussi, la social-démocratie est aussi responsable de la montée du nazisme, dans le sens où il a cherché à s'attaquer en priorité à la principale force qui semblait capable de résister au nazisme, c'est-à-dire la base du Parti communiste. On peut également critiquer d'ailleurs la social-démocratie, comme le fait Sergio Bologna, par le fait que, par sa distribution d'aides sociales au compte-gouttes, il a mis en place tout un système d'enregistrement, c'est une forme de Pôle emploi, mais version années 30, où il y avait énormément d'informations qui étaient collectées sur les demandeurs d'aide sociale, et ces informations ont ensuite servi aux nazis. Et ça, c'est quelque chose que Daniel Guérin ne dit pas, mais qui est très intéressant dans l'article de Sergio Bologna, c'est qu'à partir de ces informations, les nazis vont pouvoir catégoriser une partie croissante de la population allemande de chômeurs de longue durée comme des éléments antisociaux, asozialen, et ils vont ensuite se débarrasser de ces éléments antisociaux en les mettant dans des camps de concentration. Hein, il y en avait quand même 110 000 en 1941, qui étaient dans ce cas, et ils étaient mis au travail forcé. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, il faut rappeler que les couches sociales les plus précaires de la société de la société allemande ont été mis au travail forcé dans des camps de concentration par les nazis, mais qu'une autre partie très importante des chômeurs, alors là, pas mis dans des camps de concentration, mais ont été forcés de travailler pour des sommes dérisoires, avec une discipline militaire, dans des grands projets, notamment la construction des autoroutes. Et donc, il faut dire que le nazisme s'est quand même massivement appuyé sur la militarisation du travail et le travail forcé. Alors, un autre aspect intéressant de ce que dit Sergio Bologna, c'est que à côté de la résistance de la base du Parti communiste allemand, il y a également eu une résistance autonome au nazisme. Hein, et je pense que ça peut inspirer aujourd'hui un antifascisme autonome et révolutionnaire. Il y a eu des jeunes prolétaires qui se sont organisés pour résister au fascisme dans les années début des années 30 sur la base de l'auto-organisation et non pas sur la base du Parti communiste. Et on peut penser notamment à un syndicat plutôt de tendance marxiste anti-autoritaire qui s'appelait la Freie Arbeiter Union, donc le syndicat des travailleurs libres, qui avait quand même 400 000 membres et qui, lui, était, contrairement au Parti communiste, qui était, lui, stalinien, qui, lui, défendait des principes libertaires et qui s'est affronté physiquement aux nazis, même s'il a fini par perdre, par le fait que le combat est extrêmement déséquilibré en termes de matériel, tout simplement. Et donc là, il faut encore une fois souligner la responsabilité, comme le fait bien Guérin, du grand capital dans la victoire du nazisme, puisque si les militants nazis n'avaient pas pu bénéficier d'autant d'un aussi bon armement, d'autant de fonds pour acheter des complicités, pour s'entraîner, ils étaient aussi payés. Enfin, on va dire que l'argent du grand capital a quand même aidé fortement le nazisme à vaincre la résistance des prolétaires. Autre point intéressant dont on parle un petit peu Guérin, mais que Bologna développe plus, c'est le fait que les syndicats allemands ont un peu pitoyablement capitulé devant Hitler en disant que finalement ils étaient apolitiques et qu'ils s'accommoderaient très bien du régime, qu'ils étaient prêts à collaborer avec lui. Évidemment, ça a eu des résultats quand même assez mitigés, puisque dès le 2 mai 1933, ces syndicats ont été dissous. Et il faut également souligner un point qui n'est malheureusement pas présent trop chez Daniel Guérin, et c'est bien dommage, c'est, mais qui est présent dans l'article de Sergio Bologna, c'est le fait que le régime nazi était un régime de domination masculine extrême, et les femmes vont être en partie expulsées de leurs emplois. Elles étaient déjà très mal payées sous la République de Weimar, elles le seront encore moins sous le nazisme. Comme le dit d'ailleurs, là pour le coup, Guérin, elles vont être au début de période de fort chômage, en 33, 34, 35, elles vont être remplacées de force par des hommes adultes, même si elles vont, avec le retour de l'effort de guerre, elles vont être réemployées massivement, ça va être dans des conditions de travail terribles, avec un salaire diminué, et il faut bien le dire, le nazisme a promu l'image d'une femme au foyer poule pondeuse soumise à son mari et à la reproduction de la race aryenne. Et évidemment, on peut bien dire que le nazisme et le fascisme, de manière générale, est une forme de stade suprême du patriarcat. Enfin, on peut finir cet article de Sergio Bologna en disant que la classe ouvrière a été broyée par le nazisme, forcée au travail, que le moindre geste de résistance pouvait être sanctionné par l'envoi en camp de concentration, que jamais, peut-être dans la société moderne industrielle, en dehors de la colonisation et de l'esclavage, une société capitaliste avait recouru aussi massivement au travail forcé que le nazisme pendant la guerre. Et il faut donc bien insister, comme le fait Bologna, sur le fait que la classe ouvrière en Allemagne a été extrêmement contrainte par la terreur policière et par le travail forcé, militarisé, par le régime nazi.